Ciné Club Actu.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Po et vous écoutez Ciné Club Actu. Nous sommes Carla,
Camille
et Maxime.
Et nous allons vous présenter les 5 sorties du mois de janvier, cinéma et séries. Donc,
on va commencer par les sorties du mois.
Allez.
Oui, on va commencer par Wonka. Enfin, du coup, c'est sorti
en décembre.
Le 13 décembre 2023 pour les Français et le 15 décembre 2023 pour les Américains. Enfin, les Anglo-Saxons en général. alors, c'est un spin-off de Charlie et la chocolaterie qui revient sur l'histoire de Willy Wonka. On connaît bien du coup, et ça, comment il est arrivé à avoir sa célèbre chocolaterie. Alors, le Willy Wonka jeune, il est interprété par ni plus ni moins que Timothée Chalamet, quand même.
Beau casting.
Ouais.
Oui. Et alors, ça raconte l'histoire de Willy qui arrive dans une ville où il y a une galerie marchande avec les plus célèbres chocolateries du monde, et il veut se faire une place dans cette galerie marchande au milieu de ces célèbres chocolatiers. Et sauf que ça s'avère beaucoup plus compliqué que ce qu'il ne croit. Et, mais heureusement, avec son imagination et son talent et l'aide de Noodle, il arrive à surmonter tous les obstacles.
C'est vrai. Et je parlais de beau casting. Il y a aussi Hugh Grant.
Oui.
Et Olivia Colman.
Ouais.
Superbe le casting.
Magnifique. C'est... En plus, enfin, je suis allée le voir, j'étais très étonnée. Beaucoup de musique,
oui,
beaucoup
c'est
de
vrai.
Chansons.
C'est vrai.
Des scènes chantées, dansées.
Oui. Après, celui avec Johnny Depp aussi à l'époque, mais ça redonne un petit peu de fraîcheur.
C'est ça, c'est oui. Une mise à jour c'est au ça. Final. C'est pas mal.
Ça fait très comédie musicale.
Oui,
exactement.
C'est vrai.
C'est, ça en est une d'ailleurs.
Oui.
C'est une comédie musicale. Pour moi, ça en est une.
Oui.
Voilà. Et c'est vraiment très sympa, très film de Noël.
Oui,
vraiment, c'est vrai.
Je trouve. Honnêtement, vous savez, sur le canapé, sous un petit plaid,
genre une avec un petit chocolat chaud ou un petit
voilà.
Thé.
Je trouve que c'est le film à regarder. Quoi.
C'est ouais,
voilà.
Très drôle.
À être tranquille à la maison.
Exactement.
Ça met de bonne humeur.
Bon, oui.
On vous le recommande, même si du coup, il passe plus trop dans les cinémas. Mais
oui.
Achetez des DVD, au pire, voilà, quand ça sortira.
Vous avez déjà été sur un site de streaming, sans savoir. Non.
Oh, oui. Mais c'est illégal.
Non, non, c'est un site légal, je veux dire.
Ah non, non, en France, on n'a pas le droit.
Pas
avant un an et demi.
Ah oui. Mais et pourtant, Barbie et Oppenheimer sont déjà sur Amazon Prime. Hein
Oui, mais en VOD, parce que du coup, tu dois le payer 3 euros, mais c'est pas sur la plateforme. En fait.
Ah, ok.
Voilà, voilà.
Faut toujours payer sur. Bon, mais il va falloir attendre.
Oui, attendons encore un an.
Ou vous achetez le DVD si vous voulez, les enfants.
Oui, c'est ça. du coup, le 3 janvier est sorti le film Priscilla. C'est un biopic du coup sur la vie de Priscilla Presley, épouse d'Elvis Presley, et c'est une adaptation de son livre qui s'appelle Elvis et moi. Donc le film a été réalisé par Sofia Coppola, qui a notamment réalisé le film Marie-Antoinette, mai de 2006.
Mm-hmm.
Et c'est aussi une actrice, et elle a joué dans la partie 3 du film Le Parrain, je crois.
Eh oui, parce que c'est la fille du réalisateur
oui.
Du Parrain.
Ouais. Donc, le film traite de la rencontre de Priscilla et Elvis, alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans, et lui, il effectuait son service militaire en Allemagne. Il en avait 24 à l'époque, je crois. Donc, ils tombent très vite amoureux, mais Elvis rentre aux États-Unis et les deux restent sans nouvelles jusqu'à ce qu'Elvis reprenne contact avec elle 3 ans après. Donc, au casting, on peut trouver Jacob Elordi et Kylie Spiny. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà.
Voilà. Oui, tout à fait. C'était une actrice que je ne connaissais pas du tout pour Priscilla Presley. Elle porte le film sur ses épaules. Elle est vraiment
ouais,
forte.
Je trouve que le rôle lui va très bien.
Ouais. Et pareil pour Jacob Elordi en Elvis.
C'est un peu bizarre, parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans des rôles assez, enfin, si importants, même si son pédigré est pas mal.
C'est vrai, mais comme il est très grand, et
oui.
Pas massif, mais oui, il a une grosse carrure,
ouais,
je trouve Elvis, tel qu'il est montré dans le film, ça lui va plutôt bien en fait, cette grande figure, voilà. C'est...
Même dans le film Elvis, je trouve qu'il n'avait pas été si bien représenté.
Ah oui. Moi, j'adore le film Elvis de l'année dernière. Mais oui. En fait, c'est tellement différent. Deux objectifs, l'objectif de Priscilla, c'est montrer un peu son emprise sur Priscilla, un peu leur relation malsaine. Tandis que le film, tandis que le film Elvis l'année dernière, c'était enfin 2022 du coup, maintenant, il y a deux ans.
Oui, il y a deux ans.
C'était
déjà.
Plutôt pour la figure héroïque d'Elvis, glorification.
C'est ça.
Voilà, c'est pas le même objectif, ma foi. Mais regardez les deux.
Oui.
Pour faire un avis, bien sûr.
Toujours regarder des films, voyons.
C'est bien les films.
On est là.
Tout à fait.
C'est ça.
Alors, la troisième grande sortie du mois, c'est Poor Things en VO, ou Pauvre créature en VF, qui est sorti au cinéma le 17 janvier, qui est réalisé par Yorgos Lanthimos, le réalisateur de La Favorite en 2018, et avec Emma Stone à le rôle principal. Alors, Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant docteur Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre, avide de découvrir le monde dont elle ignore tout. Elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Donc au casting, on retrouve Emma Stone, comme j'ai dit dans le rôle principal, mais aussi Willem Dafoe et Mark Ruffalo, qui sont deux acteurs plutôt connus.
Oui.
Alors, c'est un film que j'ai adoré. Le film est génial, c'est sur l'émancipation de cette femme que le docteur Godwin Baxter en fait, a trouvée morte. Et il l'a ramené à la vie. Et vous voyez, c'est un univers assez à la fois réaliste, mais à la fois complètement surréaliste, puisqu'on ramène des gens à la vie. Les paysages, ils sont parfois verts, colorés. Le ciel, il est comme ça. Mmh.
Vous
voyez, on fait le tour des continents, mais ce n'est pas cliché. C'est vraiment visuellement, c'est recherché. Il y a toute une réflexion sur se découvrir soi-même, tout ça, qui est passionnante. Et... voilà, et Emma Stone trop forte, la réalisation trop forte.
Bah, d'ailleurs, elle a gagné un Golden Globe, on va en reparler plus tard, mais elle a gagné.
Ouais.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Amplement mérité, pour le coup. Ouais.
Il y a deux semaines Trois semaines
Ça dépend quand les gens écoutent le podcast.
Oui, c'est ça.
Début janvier.
C'est ça, voilà.
Maintenant, c'est Camille, je crois.
Oui, c'est au tour de Percy Jackson. Donc, encore une fois, c'est sorti fin décembre. Mais il y a un épisode qui est sorti chaque mercredi jusqu'à hier, du coup.
Fin janvier, du coup.
Oui.
Bah, littéralement, le 31
janvier.
Pour nous, c'était hier. Donc, pour le coup, ça fait vraiment tout le mois de janvier. Donc, vous connaissez sans doute les films. Essayez de les oublier, s'il vous plaît.
On vous recommande.
Alors, c'est très bien si vous n'avez pas lu les livres, mais pour tout fan des livres, c'est une abomination. Tandis que voilà, la série, elle a été écrite, co-réalisée avec l'auteur, donc elle est beaucoup mieux. Disponible sur Disney+, donc voilà, donc si vous ne connaissez pas, ça retrace l'histoire de Percy Jackson, qui est interprété par Walker Cobain. Vous ne connaissez probablement pas parce qu'il est très jeune.
Oui, c'est vrai que la plupart des acteurs sont assez jeunes, mais...
Oui, mais parce que dans le livre, ils ont 12
ans. Mais justement, ça...
Il est bon d'ailleurs, l'acteur de Percy Jackson. Il tient bien le rôle.
Ouais.
Bah, il est, franchement, comparé au film, il est déjà beaucoup plus fidèle, je trouve.
Ah oui.
Alors, beaucoup de gens critiquaient le casting par rapport à leur apparence physique.
Mm-hmm. Oui.
Puisque ils ont des traits de physique totalement différents. Mais alors, au niveau du caractère, quand on les voit interagir les trois.
Oui.
C'est les mêmes.
Ah oui, je vois.
Donc, du coup, de quoi ça parle, Percy Jackson, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de Percy Jackson, qui est un jeune garçon. Dyslexique et hyperactif qui s'est fait renvoyer de
nombreuses écoles.
Oui. C'est pas trop dit dans la série par contre, mais oui, il s'est fait
renvoyer. Quand on lit les livres, on le sait.
Il s'est fait renvoyer de nombreuses écoles parce que voilà, et aussi parce qu'il voit des monstres de la mythologie grecque. Ce qui, quand tu vas le dire aux adultes qui te regardent, oui, d'accord, si tu veux.
Je vois des minotaures à l'école, mais bien sûr.
Pourquoi pas. Et donc voilà, et il découvre que en fait il est le fils d'un dieu. Je ne vais pas dire lequel, mais normalement la plupart des gens le savent. Mais il découvre aussi très vite que ce monde n'est pas aussi incroyable que ça n'y paraît. Et donc voilà, allez regarder, c'est incroyable. Sur Disney+. Et les 8 épisodes sont disponibles. La saison 2, aucune nouvelle, mais.
Bah, si ça marche bien, si vous la regardez, ça va faire chiffres et Disney va se commander une saison 2.
Voilà. Ouais. On espère. Hein.
On croise les doigts.
On rappelle ce qui s'est passé pour Shadow and Bones.
Ça fait bon. Un petit... Voilà, quoi.
C'était sur Netflix, alors oui. Peut-être que Disney+, oui. Plus, je ne
ouais,
sais pas.
Mais du coup, ça fait que tous les gens sont inquiets pour toutes les séries, du coup.
Ah bah là...
Parce que les adaptations de livres, ça va être très compliqué. S'ils ouais. sont tous comme ça, après la grève. Mais c'est bon, ça. On y croit de toute façon. Bon, Percy Jackson, ça a été le plus gros succès de l'année, je crois.
C'est vrai, ça avait fait des super chiffres, je crois.
Mmh. Forcément, il y a une base de fans qui est juste énorme.
Oui.
Puis ça, ouais, ça a quand fait... même...
Puis qui attendent beaucoup aussi ouais. La série. J'ai vu, il y avait beaucoup de hype autour du projet.
Bah, donc, bon, la plupart voulaient que ce soit... Enfin, voulaient oublier ce qui s'était passé avec les films et...
Puis en plus avec l'auteur impliqué et tout.
Oui. Et bon, oui.
Voilà. Alors, moi je l'ai vu, je sais que vous ne l'avez pas vu, mais je sais que tu as lu les livres, Carla.
J'ai lu les livres.
Alors, il y a des choses qui changent un peu. Certains changements, ils perturbent un peu. Mais globalement, ils sont justifiés et... Enfin, ça change pas non plus énormément l'histoire, donc.
Oui.
Ils sont plutôt pas mal.
Ok. Vient la dernière sortie du mois.
L'avant-dernière.
L'avant-dernière, tout à fait. bon, je vais un peu plomber l'ambiance.
Oui.
Avec The Zone of Interest. C'est du réalisateur britannique Jonathan Glazer, qui est de retour 11 ans après son dernier film, avec donc The Zone of Interest en VO, ou La Zone d'intérêt en VF. Qui est sorti le 31 janvier au cinéma. Alors, le synopsis. Le commandant d'Auschwitz, Rudolf Hoss, et sa femme Hedwig s'efforcent de construire une vie de rêve dans leur maison, dans une maison avec jardin, à côté du camp. Donc, le rôle principal féminin, celui de la femme de Hoss, est tenu par Sandra Hüller, l'actrice principale d'Anatomie d'une chute. Et donc, ce film, il suit tous les tracas quotidiens de la famille du commandant du camp d'Auschwitz. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, on ne voit quasiment jamais le camp, en fait. Et c'est ça qui rend incroyable ce film. C'est très pesant, mais quasiment juste par le son et juste par ce qu'on imagine. Vous voyez ? Mm-hmm. Moi, ça m'a fait penser... Vous voyez, moi, je suis étudiant de l'histoire de l'art. Ça m'a fait penser dans un tableau. Parfois, il y a des personnages qui regardent quelque chose qu'on ne voit pas, qui sont oui. dans leur champ, et on ne peut que se l'imaginer.
Oui, oui.
Mais là, c'est exactement ça. C'est on voit des grands murs à côté de cette maison du commandant et on s'imagine et on entend, mais on ne voit pas. Et ça, 1h45 de ça, et c'est très, très, très pesant. Hein. Vraiment, c'est très étrange, ce film.
Oui.
Mais c'est vraiment un film superbe sur comment on peut perpétrer les pires horreurs, les entendre et tout,
ouais,
et au
vrai.
Final ne pas agir et ne rien faire, enfin, ou même y participer. Dans ce cas-là.
Oui.
Et voilà. Et pareil, la fin m'a beaucoup marqué aussi. Je ne veux pas spoiler, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose, ce film. C'est, voilà.
Et du coup, on passe à la dernière actu, enfin, la dernière sortie du mois de janvier. C'est Argyle, qui est aussi sorti le 31 janvier et qui a été réalisé par... Matthew Vaughn, qui a un petit pédigree, il a réalisé la plupart des Kingsman, si ce n'est tous.
Ouais.
Il a réalisé Rocketman, Tetris, X-Men Le Commencement, et je crois qu'il y a un autre X-Men aussi. Voilà, il a réalisé pas mal de films, quoi. Et donc, ce film-là raconte l'histoire d'Eli Conway, une romancière spécialisée dans l'écriture de romans d'espionnage. Et elle se retrouve liée aux activités d'un sinistre syndicat criminel clandestin. Et elle est secourue par un espion nommé Hayden. Donc, elle est ensuite plongée dans un monde secret où la fiction de ses romans rejoint la réalité, y compris même... Et elle découvre que l'agent Argyle, qui est le personnage d'un de ses romans, existe vraiment. Donc, on retrouve au casting Henry Cavill dans le rôle de cet agent Argyle. Ensuite, on a Dua Lipa aussi, Bryce Dallas Howard, ou encore John Cena.
Les deux encore dans un film.
Oui, non mais... Il fait beaucoup de films en ce moment.
Il y a même Samuel L. Jackson aussi.
Oui, et il y a...
Et Sam Rockwell dans le rôle principal,
voilà.
Qui était dans Jojo Rabbit aussi.
Genre. Oui. Voilà. Un beau casting.
Ah oui, incroyable. Et du coup, c'est... moi, je l'ai vu. Du coup, je peux en parler.
Moi, j'ai vu la bande-annonce et je veux aller regarder ce film.
C'est vrai qu'il donne très envie. C'est un bon film d'action. Si vous êtes friand des films d'action, allez voir ce film parce qu'il y a pas mal d'action. C'est intéressant, ça dure 2h20 par contre.
C'est un film d'espionnage.
40 dernières minutes. Puis en plus, c'est un film qui est très caricatural et qui sait qu'il est caricatural parce qu'il y a des plot twists.
Ouais.
Je pense que toutes les 20 minutes, il y a un plot twist en fait. Mais ça en devient, ou à la fin, genre même la parodie, même les spectateurs en rigolent parce que tellement c'est trop en fait. Le film en fait des caisses.
Ouais, en fait, c'est fait pour. Hein.
Oui. Mais à la fin, ça n'est trop. Du coup, c'est pour ça, les 40 dernières minutes, vraiment, c'est...
T'es là, oui, bon, ça fait 2 heures, je regarde la même chose.
Oh, ça commence à faire. Mais la première heure et demie est vraiment très bonne. Et c'est très drôle, du coup, parce que c'est une romancière qui écrit sur le monde des espions, qui va dans le monde...
qui se fait embarquer elle-même dans...
Et du coup, c'est assez rigolo.
Il y a vraiment tous les clichés.
C'est ça. Mais c'est une relecture un petit peu.
Oui.
Donc j'ai bien aimé. Mais c'est juste que les 40 dernières minutes, voilà, il faut. Au bout d'un moment.
Soit un peu pesante.
Voilà, il faut s'arrêter, il faut se poser 5 minutes.
On fait une petite pause, on va prendre l'air. Après
c'est ça, voilà, il faut réfléchir. Mais voilà, c'est à voir.
Oui,
puis avec
le évidemment.
Casting comme ça.
En plus.
Voilà.
On passe aux actus.
Oui, alors on en a les a mentionnés vite fait. Le 7 janvier ont eu lieu les récompenses des Golden Globes. Et alors, ils peuvent donner un peu une idée de ce qui pourrait se passer aux Oscars.
Ouais, qui se tiennent début mars.
Ouais.
Oui.
Donc, le grand gagnant de cette édition a été Oppenheimer, avec 5 Golden Globes remportés, dont celui du meilleur film, du meilleur acteur dans un premier rôle pour Cillian Murphy. Meilleur réalisateur pour Christopher Nolan. Et alors, en termes de série, c'est Succession qui a remporté 4 Golden Globes. Non, la meilleure série et le meilleur acteur et meilleure actrice pour une série. Désolée, je n'ai pas les noms. Et on peut aussi mentionner que la France a été bien représentée dans cette édition, avec Anatomie d'une chute, quand même, qui a gagné 2 prix. Non, celui du meilleur film en langue étrangère. Mais alors aussi, cette édition a énormément fait parler, en raison de... des blagues de Joe Coy qui, bon, elles n'ont pas fait rire grand monde, hein, on va pas se mentir.
Joe Coy, c'était l'humoriste américain qui avait été engagé pour être le host, pour comment on dit en français,
le présentateur.
Voilà, le présentateur, oui. Voilà, vous savez, les petites blagues gênantes, voilà, où tout le monde rigole, alors que c'est pas drôle, mais là, le problème, c'est que c'était à un niveau assez élevé.
Il est allé loin.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il a dit si vous n'avez pas vu? En fait, il a tout simplement dit que Barbie, c'était juste un film sur une poupée avec des gros seins, en gros, clairement, il a dit ça.
Mais ouais. En fait, il a clashé à peu près l'intégralité des films. Genre, il disait Oppenheimer, c'est long, haha. Bref, tous les films.
Ils ont tous eu droit.
Du coup,
Taylor Swift aussi.
Oui.
Oui, elle
s'est fait attaquer à Taylor Swift sans raison.
Elle s'est fait attaquer.
C'est trop drôle sa réaction. J'ai adoré.
Oui, elle n'a pas réagi en fait. C'est ça qui est drôle.
Réagissait à moitié. C'est-à-dire que tu voyais dans ses yeux qu'elle était là en mode je veux te tuer.
Mais du coup, voilà, c'est une cérémonie. On voit le résultat, mais on n'a pas envie de l'avoir en direct. Quoi, parce que c'est assez gênant. Quoi.
Non, mais. Ce qui me perturbe quand même, c'est que normalement, ce genre de blague, ça a été un petit peu écrit. Enfin, il y a des scénaristes derrière ce genre d'émission, contrairement à ça.
Mm-hmm. Bah, ouais.
Donc, c'est-à-dire que. Il y a une salle qui a dit « Oui, c'est une bonne idée !»
Fais cette blague, c'est très intéressant.
C'est vrai. Ah ouais, c'est...
Ouais, non.
Enfin, c'est... Je sais pas, moi, ça me perturbe.
C'était quelque chose.
Mais du coup, pour revenir à Anatomie d'une chute, je suis très content que la France gagne des choses sur l'international. Parce que nous, on a des bons films, mais d'habitude, bon, les anglophones restent entre anglophones.
Oui,
quoi.
C'est ça.
Et là, ils nous donnent des prix et tout.
Mais là, c'est le prix langue étrangère. Enfin,
meilleur film. Oui, mais on a eu, je crois, c'était sur peut-être meilleur scénario ou quelque chose comme ça. C'était quand même un gros Golden Globe. Et ça fait très plaisir. Et puis même aux Oscars, on va y revenir, il y a eu 5 nominations, dont meilleure actrice, meilleure réalisatrice. C'est des énormes nominations.
Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir de voir un film.
J'ai pas regardé, mais faudrait peut-être hein, parce que bon, on va pas se mentir, il y a pas non plus énormément de bons films français.
Ah, moi j'adore le cinéma français, mais
oui, non, mais après,
En ce moment, c'est la basse saison.
Ceux dont on parle beaucoup, en général, ils ne sont pas exceptionnels. Hein.
Oui, mais c'est ça le problème de notre cinéma, notre beau cinéma. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en partie, qu'on fait cette émission, bien évidemment.
Ah oui, parce que
c'est pour mettre en lumière les bons films.
Les films d'humour français, en général, ils sont tous sauf drôles.
Certains humours, oui. On parlait des Golden Globes. On va passer aux Oscars. Les nominations sont tombées. Et donc, les films qui ont reçu le plus de nominations... Oppenheimer qui a reçu 13 nominations.
Fallait s'y attendre.
Poor Things, dont je vous parlais tout à l'heure, aux pauvres créatures en VF. 11 nominations. Killers of the Flower Moon, 10. Barbie, 8. Maestro, 7. Et après, The Holdovers, en VF, Winter Break. Oui, en VF, c'est un nom anglais aussi. Mais ils ont donné un autre nom.
Bon.
On cherche plus.
Pourquoi pas. American Fiction, qui n'est pas encore sorti chez nous, The Zone of Interest, dont je vous parlais, et Anatomy d'une chute ont eu 5 nominations. Et donc, pour meilleur film, on a Barbie, Maestro, Past Lives, Poor Things, Oppenheimer, The Holdovers, American Fiction, Anatomy d'une chute, The Zone of Interest et Killers of the Flower Moon, que le gratin du cinéma cette année. Moi, je les ai tous vus, sauf American Fiction. Mm-hmm.
C'est vrai que là, il y a beaucoup de films qui ont reçu énormément de nominations au final. Hein.
Oui.
Enfin, on regarde...
Ouais. Mais parce que ça a été une année exceptionnelle
cinéma. C'est vrai que ça a été très riche. Hein.
Oui.
Ça va être beaucoup plus compliqué, parce qu'on va avoir
de beaux Oscars.
Mais oui, mais
voyez. Les restes de la grève, là, en ce moment,
C'est vrai. Mm. Mais chaque année, vous voyez, moi, je me dis, je regarde les sorties, je me dis, ça va pas être une grande année de cinéma, et à chaque fois, si.
Ouais, mais quand même, 2023, je pense pas qu'on va pouvoir...
Mais vous voyez, il y a plein de films, je les voyais pas arriver. Genre, Poor Things, je l'ai pas vu arriver. Anatomie d'une chute, pareil.
Mmh. Oui, mais je veux dire, il y a quand même eu pas mal de sorties qui étaient très attendues, qui ont été en 2023, donc ça a quand même été une grosse année. Hein.
Certes, mais je pense qu'on va avoir plein de pépites indépendantes, pas très connues. Par exemple, Past Lives, c'est un film pas très connu, enfin... Maintenant, un peu plus dans la sphère cinéphile, ça atteint un peu le grand public un tout petit peu. C'est un film sur une femme coréenne qui vit à New York et qui croise un amour d'enfance alors qu'elle est avec son mari.
J'en ai entendu parler, je crois.
C'est vraiment génial, pour le coup. Et il faut le regarder. Et pareil, c'est un film que ça me fait plaisir qu'il ait été nominé, quoi. Mmh. Parce que, voilà.
Ouais, mais ça a quand même été une grande année, enfin, je dirais.
Oui.
Je pense pas qu'on en aura autant tout de suite, quoi.
Oui. Faut en profiter tant que ça dure.
Oui,
c'est ça.
Et donc après meilleur réalisateur, on a Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos, Jonathan Glazer, Martin Scorsese et Justine Triet. La France est bien représentée encore une fois, ça fait plaisir.
Cocorico.
Meilleur acteur, Cillian Murphy pour Oppenheimer bien évidemment.
Encore.
Paul Giamatti avec The Holdovers, Bradley Cooper pour Maestro, Colman Domingo pour Rustin qui est sur Netflix et Jeffrey Wright pour American Fiction. Alors là, pour moi, c'est la propagande Cillian Murphy. Depuis que j'ai vu Oppenheimer, je l'amène. Il est trop fort. Il faut absolument qu'il ait son Oscar. Voilà, il est trop fort.
Ouais, après, il était quand même connu avec Peaky Blinders.
Ah non, mais...
Oui. Même avant, il était connu.
Je sais, mais je n'ai jamais vu Peaky Blinders. Donc, vous voyez, moi, je le connaissais de loin. Mm-hmm. Puis j'ai vu Oppenheimer. Je suis devenu fan. Voilà. Et après, meilleure actrice, Emma Stone pour Poor Things, dont on parlait tout à l'heure, Carrie Mulligan pour Maestro, Lily Gladstone pour Killers of the Flower Moon, Annette Bening pour Niyad, qui est sur Netflix et qui est nulle, et Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute.
C'était gratuit.
Ah, je m'y attendais pas.
Désolé, mais bon.
Moi, j'aimerais bien que Killers of the Flower Moon en ait quelques-uns quand même, parce que c'est vraiment... Enfin, je trouve que si on compare des films qui sont extrêmement longs, je préférerais Killer of the Flower Moon. Personnellement, j'ai plus aimé que Oppenheimer.
C'est valide, comme opinion. Ça peut s'entendre. c'est un sacré film aussi.
Ouais, je trouve que c'était très intéressant. Bon, alors, je pense que vous n'en avez pas parlé du coup en novembre.
Non.
Alors, Killer of the Flower Moon, c'est sur une histoire vraie. C'est quelqu'un. En gros, c'est une tribu amérindienne qui avait été bouger de leur endroit normal pour se retrouver en Oklahoma. Parce qu'ils voulaient créer au début, les États-Unis, une immense réserve en Oklahoma. Et genre mettre toutes les tribus amérindiennes là-bas, comme ça, nous on est tranquille.
Nous on peut faire ce qu'on veut de l'Amérique après.
Et, sauf qu'il se trouve que cette tribu, les Osage, si je ne me trompe pas, a trouvé du pétrole. Et donc ils sont devenus extrêmement riches. Et c'est l'histoire d'un mec qui... Ils ont décidé en crime organisé de tuer tous les Amérindiens par
c'est
an
ça. Pour le, le personnage de Robert De Niro en fait essaie que tout l'héritage des Osage ou Osage, je sais plus trop comment ça se dit, se retrouve dans une personne qui se trouve être Lily Gladstone et essaie du coup de tuer toutes les personnes autour d'elle jusqu'à la tuer elle et récupérer du coup tout l'argent.
Il y a Leonardo DiCaprio aussi.
Oui. Bon. Et oui, c'est horrible, mais ça s'est vraiment passé.
Oui,
Il s'est passé pire, hein, j'ai envie de
dire. Oui, c'est ça.
Si
mais
on
le...
s'y intéresse, il s'est passé bien pire.
C'est ça, mais c'est intéressant de voir un film de 3h30 sur ça, parce que moi, j'étais pas du tout au courant, par exemple.
On en a beaucoup parlé en cours, mais...
je vois.
C'est très intéressant.
Oui, franchement, et on n'en parle pas assez, c'est ça, quoi.
Il s'est passé des horreurs, limite, bien pire que ça, malheureusement.
Oui. Et le film dépeint très bien cette horreur, je trouve. C'est un film, c'est déprimant quoi. Il n'y a pas une once de bonheur, genre c'est juste des gens qui se tuent. Et... voilà.
Personnellement, au début, parce que moi c'était pas mon idée d'y aller, j'étais en Irlande et c'est mes collègues qui m'ont dit on va voir ça. J'ai vu le film, fait 3h30, j'étais là. Bon, je suis le genre de personne qui a du mal à rester 3h30 assise au cinéma. Regarder une série qui fait 9h au total, c'est pas un souci puisque je regarde épisode par épisode et que je fais une pause, mais un film c'est très compliqué. Et donc et au final j'ai bien aimé quand même. Ça a été long mais
Oui, quitte à aller 3h au cinéma, autant voir ce film quoi.
Oui, voilà. Oui, c'est ça. Il y a la série Avatar le dernier maître de l'eau qui va sortir en février, le 22 février. À la base, c'est un dessin animé. Et donc, c'est inspiré de la culture et du folklore chinois. Et donc, la série suit les aventures de Aang, qui en l'occurrence est l'avatar, et qui est maître des quatre éléments, donc l'eau, la terre, le feu et l'air. Et on le suit, lui et ses amis, dans leur quête pour sauver le monde de la Nation du Feu et restaurer l'équilibre des éléments. Donc la série a été écrite à la manière d'une collection livresque. Donc chacun des épisodes représente un chapitre et chacune des saisons un livre. Donc la série présente une riche variété culturelle ainsi qu'une forme de démarche initiatique à travers l'évolution de ses personnages. Moi, j'ai vu quand j'étais petite le dessin animé et j'attends beaucoup de cette série parce que y avait eu un film qui franchement est un flop total.
Ah oui.
Oui, il y a eu un film. Ah, tu savais pas ?
De Shyamalan, c'est le réalisateur du Sixième Sens d'Incassable.
Il y a eu un film j'ai détesté. Je crois que c'était une ou deux heures de film. Ils ont essayé de résumer tout ce qui s'est passé dans le dessin animé. J'étais là, faites mieux s'il vous plaît. C'était nul. J'ai détesté.
Moi aussi, j'ai un petit peu hâte. J'avais bien aimé le dessin animé, je me rappelle. Ouais. Et aussi parce qu'il y a Kayu Wentio Tarbell qui joue. Si vous connaissez Anne Whitney.
Oui.
Ouais, bah, c'est celle qui joue Cacouette.
D'accord.
Ouais. Pareil, Anne Whitney, c'est une actrice d'origine amérindienne justement du Canada. Et donc dans Anne Whitney, elle joue une jeune amérindienne qui rencontre Anne, le personnage principal, et elles deviennent très amies. Et voilà. Et donc cette actrice, et j'ai envie de voir ce que ça va donner, du coup.
On espère que ce soit. Enfin, dans tous les cas, je pense que ça fera mieux que le film.
Ça peut pas être pire. Vu la réputation du film. Oui,
mais... j'avais entendu. Tout le monde avait très peur pour la série, mais je savais pas qu'il y avait un film qui avait été fait.
Oui, il y a eu un film, oui.
Ils savent pas adapter les.
Ah, ils ont beaucoup
les
de mal.
Les animations, en fait. Oui. Vraiment, c'est terrible. Terrible, terrible.
Après, il y a une raison pourquoi c'est une animation au début aussi, en vrai. Ouais. C'est ça le truc. C'est que j'ai l'impression qu'on a envie de que ce soit plus. Enfin, on a besoin que ça soit un live action et tout, alors que bon, l'animation, c'est super.
Après, moi, je préfère les live action que l'animation.
Ah ouais ?
C'est peut-être mon avis perso. Mais...
moi, j'aime autant l'un que l'autre.
J'ai du mal.
L'actu ensuite. L'actu suivante. C'est à moi ?
Oui.
Ok. Alors, on parlait de Killers of the Flower Moon. Et bien, Martin Scorsese, il enchaîne. Et son prochain film, il tournera en avril de cette année, et ça sera sur Jésus. Et le réalisateur a dit que ça sera un projet court, ça fera 1h20 par là, et ça sera un film un peu entre fiction et documentaire. Il n'a pas dit plus.
Ça me fait un film sur Jésus en 1h20.
Mais je pense que ça sera un film, vu qu'il est, il est chrétien, Scorsese, il a déjà fait 3 films sur la foi. Qui sont géniaux d'ailleurs, allez les voir. C'est La Dernière Tentation du Christ avec William Dafoe, 1988, sur La Dernière Tentation du Christ, pour le coup, avant sa mort, tout ça.
Ouais.
Il y a qu'une dune, 1997 ou 18, qui est sur les moines tibétains, dont on les empêche en fait de prier tout comme ils veulent.
Mm-hmm.
Et il y a Silence en 2016 avec Andrew Garfield et Liam Neeson, où là, ce sont des missionnaires chrétiens au Japon au XVIIe siècle, quand les pouvoirs japonais ont voulu un peu saper le christianisme qui était amené par les Occidentaux. Et du coup, ils ont pourchassé Andrew Garfield dans ce film pendant 2 heures. Je ne sais plus combien il dure, 2 heures ou 2 heures et demie. Et c'est génial.
Il a une réputation de faire des films longs, je crois, aussi.
Oui, oui.
Donc, c'est Martin Scorsese.
Ben là, 1h20.
Et ces 3 films sont sur, justement, le fait que c'est dur de croire en quelque chose, sur la foi, tout ça.
Oui.
Et là, ce film-là, je pense que ça va être plutôt être un film, une réflexion sur comment croire, qu'est-ce que ça amène de croire en
Dieu,
tout ça.
Oui, parce qu'il y en a tellement eu des films sur Jésus.
C'est ça.
Mais oui, oui, voilà.
C'est Scorsese, lui, il va pas faire un film juste sur un épisode biblique ou un truc comme ça. Non, ça va être un truc plus réfléchi, voilà.
Non, mais ça peut changer. Ça peut parce qu'avec avec tous les films sur la vie de Jésus qui sont sortis, il faut un peu de nouveau, quoi.
Ouais, bah à voir, hein, j'ai envie de dire.
Bah oui.
Mm-hmm. Et ensuite, le troisième volet d'Akuto Tiré. Les 2 premiers sont disponibles sur Netflix. Le dernier est sorti en 2022.
Oui.
Toujours réalisé par Rian Johnson et avec Daniel Craig. Ben, le troisième volet, il tourne cette année, donc pour une sortie probable sur Netflix en 2025. On n'a aucune idée du casting, mais c'est toujours intéressant. Toujours dans les Akuto Tiré, il y a un gros casting et tout. Là, ça va être intéressant de voir qui va y avoir dedans, quel mystère ça va être, puisque personnellement, j'adore les 2 Akuto Tiré, j'adore leur mystère. J'adore le fait que les mystères soient des messages aussi. C'est pas juste un murder mystery sans... Il y a du fond, quoi. C'est toujours des messages.
C'est recherché.
Sociaux, voilà. C'est intéressant. Et puis Daniel Craig est trop fort aussi. Un Benoît Blanc, il s'appelle comme ça, le détective de Akuto Tiré. Il est trop fort.
Ça lui va bien.
C'est ça.
Il y avait qui d'autre dans le 2, j'ai oublié.
Dans le 2, il y avait Janelle Monae, la chanteuse. Il y avait Edward Norton.
Oui. Il y avait un sacré casting.
Hugh Grant, en caméo aussi, qui joue le compagnon de Daniel Craig. Du coup, à mon avis, on le verra un peu plus dans le 3, Hugh Grant, parce que c'était juste un caméo un peu bête dans le 2.
Oui.
Pour la blague. Et voilà. Okay. C'est tout.
Mais dernière actualité, à moins qu'il y en ait une. Non, je crois que c'est la dernière.
Oui, c'est la dernière, oui.
Netflix a annoncé hier que le film adapté du jeu des loups-garous de Tierce Lieu va sortir en 2024. Donc, alors, si vous ne connaissez pas le jeu du loup-garou, c'est un jeu de rôle où, en gros, vous êtes... il y a 2 gros clans, on va dire. Celui des loups et celui des villageois. Et il y a des rôles un peu spéciaux au milieu, donc il y a la sorcière, la voyante, etc., qui ont des pouvoirs. Et en gros, les loups-garous, ils tuent un villageois chaque nuit. Et donc, le but des loups-garous, c'est de tuer tous les villageois et des villageois d'éliminer tous les loups-garous. Et il y a des sous-rôles, etc. Et donc, voilà, ils ont fait un film, ce qui peut être très intéressant. Et il y a...
Ça pouvait être très intéressant jusqu'à ce qu'on apprenne qu'est-ce que ça allait être, ce film. Là, c'est le moment de l'ascenseur émotionnel pour pour l'auditeur, normalement, puisque c'est une comédie avec Franck Dubosc. Bon, voilà.
On s'attendait à mieux.
Voilà, c'est bon, peut-être que ça sera bien. Hein.
Oui,
ne jugeons pas.
Voilà,
faut pas juger l'habit du moine, je ne sais plus.
L'habit ne fait pas le moine.
Voilà, l'habit ne fait pas le moine. Voilà.
Non, parce qu'en fait, juste avant, on me disait, oh, il y a ça, il faudrait peut-être en parler. Et puis j'ai dit qu'il y avait Franck Dubosc dedans et ça a été une déception.
Un flop total.
Vous voyez, il y a certains acteurs, quand on voit qu'ils sont au casting, on a envie de les regarder, on se dit « Ah, ça va être un bon film ». Mais vous voyez, vous prenez tout l'inverse, c'est Franck Dubosc. C'est... désolé, mais je veux dire...
Bah, disons qu'il a mauvaise réputation depuis qu'il a fait camping, quoi.
Je sais pas, c'est un humoriste, je crois, de base.
Oui, à la base, il fait des stand-up.
Je sais pas pourquoi, dans le gros cinéma français, dans les films qu'on met en valeur, souvent on amène des humoristes au cinéma, mais
Oui.
Humoriste et acteur, ce n'est pas la même chose.
Mais c'est le prochain step, tu deviens humoriste et après tu deviens...
Oui, oui, non, mais je veux dire, ça ne veut pas dire que les humoristes peuvent pas être bons, mais c'est
oui,
juste
non,
que, voilà.
Mais...
Non, mais oui, enfin, en France...
Faut pas abuser non plus, quoi.
On choisit pas trop les bons... On met pas en avant les bons films, je trouve.
C'est oui, vrai. Oui, et bon. Encore une fois, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, oui. Ma foi. Même si on a parlé d'aucun film français, le mois prochain, on va se rattraper.
Oui, on se rattrapera.
Et il n'y avait pas trop de grosses soldes.
Ah, en janvier, c'est tristouné, ouais. Mais c'est normal parce que les films français sortent surtout en fin d'année. Je ne sais pas pourquoi les petits distributeurs de films préfèrent sortir les films d'auteurs français en fin d'année, à partir de septembre, entre septembre et décembre. Et le reste de l'année, c'est un peu marée basse.
C'est voilà. Flou.
Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est comme ça.
Il y a des films toute l'année, c'est ça le plus important.
Exactement.
Oui.
Et il y a un podcast tous les mois à retrouver sur Radio Campus Po, Ciné Club Actu, bien sûr.
Et bien voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous dit rendez-vous en février pour le prochain épisode. Vous pouvez retrouver ce podcast sur SoundCloud et le site internet de Radio Campus Po. Restez connectés sur les réseaux sociaux de Radio Campus Po pour tout savoir de la sortie des podcasts et de la programmation de la radio. À dans un mois.
Au revoir.